Cette balado-diffusion a été enregistrée à la conférence sur l'eau Sommet Bleu.
Bon, alors je veux maintenant ouvrir la porte à vous tous. Il y a plusieurs façons de le faire. Bon, vous pouvez écrire, rédiger vos questions sur des fiches. Je vais les grouper par thème.
Dans la salle, et puis surtout des expériences du Québec. S'il y a quelqu'un peut-être qui peut prendre parole à un des micros pour nous partager un peu les expériences au Québec. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut parler des campagnes qui mènent? Il y en a des campagnes à Montréal et autre part.
Bonjour tout le monde. Michel Parent, je suis président du syndicat des cols bleus de la ville de Montréal. À Montréal, pour ceux qui ne le savent pas, la ville avait attribué un contrat de l'ordre de 352 millions pour la pose, un contrat en deux étapes, la pose de compteurs d'eau dans les institutions, commerces et les industries, ainsi qu'un contrat dans la deuxième phase de pose de détecteurs de niveau dans l'ensemble du réseau d'eau potable pour détecter les fuites éventuellement. Ce contrat des compteurs d'eau-là, la ville, le contrat de 350 millions, pourquoi la ville avait donné un contrat de la sorte? Et nous autres, on prétendait que c'était un PPP déguisé. Pourquoi déguisé? Parce qu'au Québec, l'agence des PPP disait que le contrat, pour qu'un contrat soit perçu comme étant un PPP, il fallait qu'il y ait injection d'argent du secteur privé. Dans ce cas-là, la ville, c'est la ville elle-même qui payait le contrat, donc l'achat des compteurs d'eau et l'installation, donc ce n'était pas perçu comme étant un PPP. Cependant, la ville se justifiait de donner ça à l'entreprise privée, complètement, ce contrat-là, au lieu de le faire par ses propres employés. La ville n'a même pas envisager la possibilité de le faire faire, de faire faire les travaux par ses propres employés. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a eu collusion avec des compagnies du secteur privé, naturellement. Et il y a trois hauts dirigeants de la ville de Montréal qui ont quitté leurs emplois pour s'en aller soit directement à la compagnie qui avait eu le contrat des compteurs d'eau ou à une de ses filiales. Ces trois dirigeants-là sont Frank Zampino, qui était président du comité exécutif de la Ville de Montréal, qui a quitté son poste de président du comité exécutif de la Ville de Montréal pour se faire embaucher par la compagnie Génio, compagnie qui avait obtenu le contrat des compteurs d'eau. Le deuxième personnage qui a quitté l'emploi de la Ville de Montréal, c'est M. Yves Provost. M. Yves Provost était directeur général adjoint à la Ville de Montréal et anciennement, depuis environ un ou deux ans, et avant ça, il était directeur du service de l'environnement, donc service responsable de tout ce qui est le service de l'eau à Montréal. Il a quitté la Ville de Montréal, démissionné de la Ville de Montréal pour être embauché par la firme BPR. La firme BPR, c'est la firme qui a fait toute la planification d'ingénierie du fameux contrat des compteurs d'eau. Et le troisième étant l'ancien directeur général de la Ville de Montréal, M. Robert Abdallah, qui, lui, a démissionné de la Ville de Montréal, trois scandales, effectivement. Lui a démissionné de la Ville de Montréal pour être embauché par la compagnie Gastier, qui est une filiale de la compagnie Simard-Baudry, qui, elle, cette compagnie-là, faisait partie du consortium qui a eu le contrat des compteurs d'eau, parce que ce consortium-là est en deux compagnies, Dessau-Soprin et Simard-Baudry. Donc, trois hauts dirigeants de la ville qui ont quitté leur poste avec leur expertise et la connaissance de l'ensemble du réseau de la ville pour s'en aller dans le consortium, dans le fond, qui a eu le contrat des compteurs d'eau. Tout ce stratagème-là a été dénoncé de façon médiatique. Là, je vais dire une atrocité qui va faire en sorte que je vais recevoir probablement une deuxième mise en demeure. La première, je n'ai reçu une du maire de Montréal lui-même. Donc, ce contrat-là a été dénoncé, entre autres, par le journal La Presse à Montréal. Pourquoi dénoncé par La Presse? Parce que le fameux contrat des compteurs d'eau, ce qui a été véhiculé, mais très peu par les médias à Montréal, il y avait deux grosses compagnies qui bitaient dessus, dont géniaux, et une autre compagnie que je me souviens plus le nom, qui est une filiale de Power Corporation, à qui appartient le journal La Presse. Et c'est par La Presse, étant donné que Power était mécontent de ne pas avoir eu le contrat, qui ont dénoncé le contrat des compteurs d'eau. Et à partir de là, ça l'a coulé dans les médias et ça l'a alimenté l'ensemble des citoyens et citoyennes de Montréal au niveau du journal La Presse. Et tous les scandales sont sortis par La Presse aussi. Donc, à partir de là, le maire de Montréal, voyant la pression politique qui montait à l'aube des élections municipales, parce que ça, c'est peut-être près de deux mois avant les élections municipales qui ont eu lieu au Québec le 1er novembre dernier. Donc, le maire a décidé de canceller le contrat des compteurs d'eau et a donné comme mandat au vérificateur général de la Ville de Montréal de faire un rapport sur toute l'histoire des compteurs d'eau, parce que lui, comme maire de Montréal, c'était le plus gros contrat que la Ville de Montréal a jamais donné. 350 millions. Et ce qui a sorti dans les médias, c'est que ce contrat-là de 350 millions qui avait été adopté par le conseil de ville pouvait, avec certaines pénalités et retards, coûter jusqu'à 618 millions. Et là, ce qui a sorti public, c'est les élus avaient voté sur une dépense de 350 et non pas de 618 millions. Et à partir de là, ça a été alimenté beaucoup dans les médias. Donc, il a sorti un rapport quelques mois après. Et le maire, pour s'en laver les mains, parce qu'il a sorti un rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal, j'essaie de résumer ça, là, mais c'est assez complexe comme dossier. Dans son rapport, le vérificateur général de la Ville dit que le contrat devrait être annulé et fait des recommandations. Une des recommandations principales du vérificateur général de la Ville de Montréal, c'est de dire comment se fait-il qu'un contrat de la sorte, de cette ampleur-là, n'a pas été, à première vue, il n'y a pas eu d'analyse de fait à la Ville de Montréal pour dire comment se fait-il que l'analyse n'a pas été faite de faisabilité à l'interne avant d'aller directement à l'externe. Donc ça fait partie des recommandations du vérificateur général. Ils ont annulé le contrat. Le maire de Montréal, pour sauver la face, ce qu'il a fait, il a congédié le directeur général qui était là, Claude Léger, et un directeur général adjoint. Et là, le processus s'est encouru. Il y a eu par la suite un deuxième rapport de la directrice générale par intérim qui a été nommée suite au congédiement du vérificateur général. Et là, tout ça est arrêté présentement. Et c'est sûr que la Ville, de la façon que le contrat était fait, avec la Ville de Montréal, perdait complètement son expertise. C'est une privatisation déguisée qu'on a réussi à arrêter à Montréal par pression médiatique, mais surtout parce que Power Corporation a dénoncé le contrat parce qu'ils ne l'ont pas eu, dans le fond, c'est strictement ça. Sinon, probablement qu'on ne l'aurait jamais su. Ça aurait passé directement au privé et les citoyens et citoyennes de Montréal venaient de s'embarquer. Imaginez-vous, vous regardez le prix de l'essence, qu'est-ce que serait le prix de l'eau s'il y a une compagnie qui prend le monopole de l'eau à Montréal? Et j'arrête là-dessus, j'espère que j'ai assez résumé pour vous.
Merci beaucoup.
Bon, j'ai une question spécifique pour Carlene. Les Olympiques de 2010 vont affecter l'eau à Vancouver et Whistler et en Colombie-Britannique. De quelle façon? Ben, je parle des eaux. Eaux usées, égouts, eaux potables, etc. C'est de grand intérêt pour les gens de Toronto qui vont accueillir les Jeux Panam en 2015. Il y a une section locale de CFP à Whistler qui était là en 2005. Ils ont changé de nom pour devenir la section locale SCFP 2010, parce qu'ils savaient qu'il y aurait beaucoup de privatisation à la suite des Jeux olympiques, et donc ils voulaient changer de nom, désignation de sa section locale. Au Conseil des Canadiens, nous avons une déclaration vis-à-vis des Olympiques. On parle bien sûr de l'importance et l'amitié de ces événements internationaux, mais il y a beaucoup de privatisation qui entoure les Jeux olympiques, surtout par le truchement de toute la construction, bâtiments, etc. à Whistler, beaucoup de PPP, et aussi il y a d'autres préoccupations à Whistler. autour de toute une construction d'infrastructures non nécessaires pour Whistler. Et les gens demandent à quoi ça va servir après les Jeux olympiques. Aussi, il y a la perte de beaucoup de vieilles forêts. Alors, c'était vraiment pénible pour les citoyens de Whistler. Et il faut souligner l'importance des résidents qui voient leur collectivité submergée par le Comité international olympique, ses règles, ses règlements, les changements imposés, perte des libertés civiles, perturbation de la vie quotidienne pour la durée des Olympiques, etc. Alors je pense, et là, je vous encourage à visiter notre site web, mais il y a beaucoup de privatisation pour les Jeux olympiques de Vancouver-Whistler, et ce qui nous préoccupe, c'est comment dit par des corporations et le corporatisme des Olympiques. Il y a un projet d'eau en bouteille pour les Jeux olympiques. Et c'est vraiment incroyable de voir la quantité d'eau en bouteille que les gens seraient forcés à boire pour les Jeux olympiques grâce à cause de ces commandites. Donc, il est important d'examiner ces appareils immenses qui s'accaparent d'une collectivité parce que c'est toujours entouré de privatisation. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que j'ai travaillé avec beaucoup de ces gens à Whistler et ils sont toujours actifs, militants dans leur collectivité. Mais les gens maintenant ont très peur. Ils ne veulent pas parler ouvertement contre les Olympiques à Whistler. Mais dans cette collectivité, les gens veulent faire quelque chose. Et c'est intéressant de voir leur réponse. C'est VANOC, c'est la société organisatrice des Jeux olympiques de Vancouver. Et on encourage les gens de Whistler de se promener avec des T-shirts et des macarons avec écriteau. « Demandez-moi, je suis un résident local. » Alors, il y a des gens qui ont... Ouais, ils ont hâte que les gens leur demandent ce qu'ils pensent des Jeux olympiques.
It is one of the great...
Bon, c'est ça qui est bien avec les campagnes communautaires, parce que quand on les engage sur une question en particulier, ils restent engagés et actifs sur d'autres dossiers, surtout quand on parle de contrôle démocratique de ce qui se passe dans les communautés locales. Et j'ai une question ici, quelques-unes qui ont trait à ce défi que représente l'engagement. La question est la suivante. Bon, c'est une chose que de se tourner vers les gens qui sont déjà engagés, qui sont déjà convaincus, les convertis que la privatisation est une mauvaise chose. Mais il y a bien des gens qui ne sont pas vraiment au courant des enjeux, qui ne sont pas au courant du dossier. Comment peut-on les toucher, ces gens-là? Et aussi, comment peut-on les toucher au moment opportun? Parce que souvent, il faut que le travail commence avant qu'il y ait une crise d'eau. Mais c'est difficile d'inciter les gens à prêter attention avant la crise. Par exemple, à Whistler et à Hamilton, on a réussi à faire changer les choses, à renverser la vapeur. Mais bien souvent, ce n'est que lorsque le marché est conclu que les gens disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous est arrivé? » Alors, pouvez-vous commenter, chacun de vous, sur la façon de recruter, d'engager les gens qui ne sont pas encore convertis avant la situation de crise? Je ne pense pas qu'il y ait de formule magique. Hein? Il faut quoi vivre avec. Il faut que les gens vivent certaines choses avant de passer à l'action. Par exemple, si je dis que la privatisation est mauvaise, dès le départ, ce que faisait le gouvernement, c'était ça. Il nous disait qu'on était contre, il disait qu'on était, nous, contre les investissements. On nous appelait des terroristes, des socialistes. Alors, le gouvernement, la Banque mondiale semblait commanditer des journaux pour écrire toutes sortes de mauvaises choses sur nous. Alors, on disait, nous, vous avez un système qui s'effondre et il y a des investissements étrangers qui seront faits et ces gens-là qui sont des nationalistes, qui sont contre les investissements étrangers, vous empêchent d'obtenir un nouveau système. Alors, ce qu'il a fallu faire, c'était de prendre cette information et systématiquement dire aux gens, voilà, ceci vient de dossier de Suez, dossier de Bywater. Je vous donne deux exemples. Et à l'Université du Ghana, le gouvernement a organisé un forum public pour convaincre le conseil des étudiants à accepter la privatisation. Ils ont fait la réunion en soirée, qui n'a pas été annoncée publiquement. Donc, nous, on en a eu 20 et on a organisé nos dépliants, etc. Et sur l'invitation des gens qu'ils ont invités, ils disaient que s'ils venaient, ces gens-là qui leur donneraient de quoi manger gratuitement et toutes sortes de choses comme ça. Alors, quand on est arrivé, la réunion a commencé, les étudiants les écoutaient. Il y avait quelqu'un du Parlement, le technicien du secrétariat de l'eau, quelqu'un du FMI et les résidents qui étaient là où était la réunion. Alors nous, on a commencé à distribuer nos brochures aux étudiants. Et alors, la discussion se poursuivait, les étudiants applaudissaient la Banque mondiale et le gouvernement. Et arrivé au moment de la période de questions, on s'est assuré que les quatre premières personnes qui s'emparent du micro étaient de notre groupe, de notre côté. Alors, on s'est emparé du micro et par le temps qu'on finisse avec les quatre premières personnes, les jeux étaient changés, quoi. L'opinion avait changé. Et voilà que les étudiants ont commencé à poser des questions. Et enfin, tout le monde a réagi et on dit, ben, je n'arrive pas à croire que ce sont mes étudiants. Peut-être qu'ils viennent d'ailleurs. Hein? Le responsable des étudiants était très fâché de ne pas pouvoir contrôler les étudiants qui étaient contre maintenant parce que lui, il était le président du panel et tout est allé à la débandade, quoi. Alors, il faut utiliser cette information-là pour en faire part aux gens. Il ne faut pas abandonner. Deuxième exemple, au congrès du syndicat du commerce, on nous a dit quelle était la nature de ce contrat de gestion. Alors, sans qu'ils sachent, on avait invité la presse, nous. La presse est rentrée dans la salle. Il y avait donc des journalistes des journaux, de la télé, et ils nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on a fait venir la presse. On a dit, écoutez, on ne va pas avoir une conversation privée avec vous. Nous sommes un groupe de campagne publique et on doit au public au moins la vérité, leur faire savoir ce que vous avez à nous dire. C'est la presse, parlons donc. Alors, la réunion a commencé dans le silence, pas de dialogue. Et la presse a fait rapport ce jour-là pour dire que la Banque mondiale s'était enfuie de la coalition. Alors, c'est ça, voyez-vous? Il faut que les gens vivent cette expérience. Et maintenant, à l'heure où je parle, le gouvernement a établi un comité pour passer en revue le contrat de gestion. Pourquoi? Parce que on a demandé qu'une enquête soit faite sur leur consortium. Et comme ça devient pas mal embarrassant pour le gouvernement. Et la campagne contre la privatisation leur a bloqué le chemin. Alors, ils ont créé un comité pour passer en revue le contrat. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est de se débarrasser du directeur administratif du consortium qui travaillait pour une compagnie britannique. Et ils ont nommé leur sous-directeur et ils vont prendre quelqu'un de la localité pour être le directeur adjoint. Ça, c'était comme l'exemple qu'on a eu du Québec, là. On pousse les sections locales dans les consortiums. Alors, d'ici la fin de la vérification, il y aurait des gens de la localité donc qui dilueraient un peu la situation, qui masqueraient les choses. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller de très près. Hein? C'est la seule façon. Mais on peut pas éviter cela, par contre. Les gens doivent vivre ces expériences. Si je dis que cette eau vient de Vista et que je dis, croyez-moi, goûtez-y et vous allez me croire. La prochaine fois, quand je dirai quelque chose, vous allez me croire. Voilà. C'est comme ça. C'est l'expérience qu'il faut vivre dans la vie. Oui, et je dois dire que cette eau-là est bonne parce que c'est de l'eau du système de distribution publique. Bon, je pense que vous avez raison. Il faut composer avec ce qui nous confronte, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire parce que aux aguets, ce qu'on célèbre ici, les 10 ans de travail ensemble et de formation de comité, c'est une façon de faire. C'est une question d'éducation. C'est un processus continu. Le gouvernement, parfois, nous donne la possibilité, par exemple, de dire que l'eau est un droit de la personne. On peut faire changer l'opinion des gens aussi, éduquer. Mais aussi, il faut chanter les louanges de la fonction publique. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait des fonctions publiques qui soient bien dirigées. Alors, dans notre quotidien, il faut continuer d'améliorer notre fonction publique. Et nous devons pouvoir compter sur les travailleurs et travailleuses qui parlent sur le bien que représente la fonction publique. Les services publics, c'est un droit de la personne. C'est pas juste de la prestation de service, c'est beaucoup plus que cela. Alors, on peut faire du travail à ce niveau aussi. Et enfin, ce qui est de la marginalisation, c'est pour éviter la marginalisation, il faut travailler avec la communauté. Quand les gens travaillent avec la communauté, on ne peut pas les appeler des socialistes ni des terroristes. Mais c'est difficile de les marginaliser. Donc, il faut travailler avec les gens de la collectivité pour faire du travail sur le terrain. Alors, vous n'allez jamais gagner une bataille avec de belles bannières et de grands slogans. Non, c'est vraiment une question de gens et de relations. Oui, j'allais dire quelque chose de très similaire. Deux choses maintenant, peut-être. Il faut s'assurer que le public soit mis au courant, que le public ait l'occasion de s'engager. Je ne sais pas ce qui s'est passé ailleurs au pays, mais en Ontario, tous les gouvernements commencent à organiser ce qu'ils appellent des consultations publiques. Donc, ils installent des grandes pancartes expliquant la nouvelle structure gouvernementale dans une salle. Et vous pouvez aller un à la fois pour parler à du personnel, pour vous dire ce que vous pensez, pour dire ce que vous pensez de la nouvelle structure de gouvernance. Alors, pour ceux et celles d'entre nous qui ont de l'information et des solutions de rechange à offrir, si on nous offre d'aller rencontrer des membres du public et pour parler, c'est très important justement pour renseigner les gens qui ne sont pas au courant des alternatives, des solutions de rechange. Et aussi, l'important, il y a le sommet comme celui-ci où on peut tous se rencontrer et s'organiser. Bon, je me demandais comment être vraiment organisé au point d'éviter les crises qui s'annoncent. Bon, ce serait magnifique, vraiment, ce serait un travail tout à fait différent qu'on ferait. Mais, et j'agris sur les questions d'éducation. C'est vrai qu'il faut renseigner les gens, mais j'ajouterais sur ce front que, oui, les gens vont répondre au changement climatique aussi. Mais il y a toutes sortes de choses intéressantes qui se font dans les communautés, où les communautés se serrent les coudes et décident de voir. Il y a des gens qui travaillent sur des initiatives locales, des résolutions locales, pour aider les collectivités à lutter contre les changements climatiques, que ce soit avec les questions de politique alimentaire ou les questions d'eau dont on parle ici. Mais je pense aussi que ça aura des retombées positives. On est en train d'organiser des règlements locaux qui vont nous aider quand la question de libre-échange reviendra. Alors, on est en train d'organiser quelque chose de vraiment bien pour la communauté sur l'accord de libre-échange aussi, quand ça reviendra sur notre écran radar. Alors, quand on est en situation de crise, pourquoi ne pas aller parler aux gens qui sont déjà de notre côté? Oui, mais comment est-ce qu'on peut aller trouver les gens de la collectivité qui sont moins au courant? Je pense que c'est vraiment difficile, mais c'est fondamental. Je pense qu'il faut être brave, courageux, trouver ces gens-là qui seront touchés par cette crise, que ce soit celle de la privatisation ou le Walmart, tous ces dossiers qui viennent toucher nos collectivités. Les gens en souffriront et il faut trouver ces gens-là pour les renseigner. Je n'aurais jamais cru en janvier, quand on a commencé en 2006 là, à Whistler, que cette petite réunion qu'on a eue dans la maison de cette femme extraordinaire où on a parlé d'aller à une réunion publique qui allait avoir lieu, organisée par la municipalité, Nous avons eu la petite réunion et les gens se demandaient ce qu'on allait faire à cette réunion. Il y a des gens qui ont dit on pourrait poser des questions assez difficiles, on peut soumettre des lettres de suivi. Et il y a une personne dans la salle qui a dit où on pourrait faire autre chose, où on pourrait parler un peu plus fort. Et ce qu'ils ont fait quelques semaines plus tard, c'est aller prendre une boîte de savon. Ils l'ont mis par terre au beau milieu de la réunion publique. Ils ont dit, on ne nous écoute pas, on veut que vous répondiez à nos questions. Et à partir de là, c'était évident qu'on allait avoir gain de cause. Et quand le moment est venu d'aller à la réunion en juin, où nous avions soumis tous ces formulaires pour voir si la municipalité allait demander une résolution, il nous fallait avoir 892 signatures. Et à l'échéance, on en avait presque le double. Et je pense que ça a été vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que les gens sont sortis, sont allés frapper aux portes, comme je l'ai dit, comme c'était à Whistler. Tu sais, les gens n'étaient pas souvent chez eux parce qu'ils ne vivent pas là. Mais ils ont quand même fait du porte-à-porte tout le temps. Et je me suis dit que les gens de Whistler ont très bien travaillé. Ils ont été très courageux, très braves, parce qu'ils se sont vraiment bien organisés.
I have another question here.
J'ai une autre question ici, mais il y a des gens au micro, alors allez-y donc et donnez-moi assez de temps pour poser cette dernière question, parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes, alors je vais vous donner une idée du temps. Vous avez déjà posé quelques questions que j'avais l'idée de demander, alors je vous remercie d'avoir lu mes pensées, n'importe quand, chers confrères. Et j'apprécie vraiment tous les panélistes là. Moi, je viens de Winnipeg, où notre grande campagne porte sur le modèle de l'installation de déchets et d'eau. Nous avons un maire qui pense que Winnipeg devrait être dirigé comme une entreprise. Et il est très populaire à Winnipeg. Il a beaucoup d'alliés idéologiques. La majorité est de son côté, d'ailleurs. Alors, c'est la démarche qui a été adoptée là-bas. Nous avons aussi les médias qui ne sont pas extraordinaires, qui ont déjà dit que le Conseil des Canadiens, le SCFP, c'est suspect habituel. Bon, alors, ce qu'on aimerait faire en plus de mobiliser les gens, l'un de nos succès, c'est qu'on a pu faire ressortir l'absence de consultation réaliste du public. Il y avait une salle pleine de 200 personnes très fâchées quand ils ont fait venir des représentants de la ville pour expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. C'était une consultation, puis ensuite ils sont partis avant même que le public ait eu la chance de poser des questions. Alors ils gardent tout dans le secret et ils vont avoir un vote en juillet. Et c'est ce secret qui fâche les gens. Mais je voulais savoir précisément, vu qu'il y a des PPP associés avec des augmentations de tarifs, on se disait qu'on pourrait peut-être avoir l'industrie des hôtels ou les grands consommateurs d'eau, indépendamment de leur couleur idéologique. C'est l'argent qui compte ici. Alors, peut-être si on avait une bonne recherche qui pouvait leur être présentée pour leur faire comprendre qu'on n'a pas seulement un argument d'idéologie ici, mais que c'est vrai. Ils pourraient peut-être travailler avec des gens qui ont peut-être un peu plus de respect pour le conseil. Alors, je ne sais pas, que pensez-vous de ce genre d'efforts ou de démarches auprès de l'industrie hôtelière ou des grands consommateurs? Je vous demanderai de voir parler à Manuel derrière vous de recherche, parce que c'est justement le genre de... c'est l'unité de recherche ici publique. Et il pourrait peut-être parler de la valeur de la recherche pour lutter contre ces projets de privatisation. Il y a beaucoup de recherche qui se fait. On peut aller à le site web de CSIRO. Il y a beaucoup de bons sites web là-dessus. Ce n'est pas qu'on n'a pas l'information. L'idée, c'est de chaque fois, il faut rééduquer les gens, les informer à nouveau sur les échecs de la privatisation. Et moi, personnellement, je crois que chaque projet de privatisation est voué à l'échec parce que la compagnie privée n'a aucun lien avec l'infrastructure autre que le produit qu'elle veut exploiter et épuiser, hein, pour pouvoir investir. La compagnie ne fera rien pour entretenir l'infrastructure. Elle la laissera finalement l'ombre d'elle-même, et comme à Atlanta, où ils ont été renvoyés assez vite parce qu'ils ne sont pas occupés et où ils n'ont pas fait l'investissement à Manille, la même chose. Alors, partout dans le monde, le secteur privé ne considère pas que c'est sa responsabilité d'investir. Alors, même si les tarifs n'augmentent pas dramatiquement, on sait qu'ils vont augmenter, mais on verra aussi une dégradation graduelle de notre actif collectif. Alors, je sais que vous voulez parler, mais vite. Alors, vous pouvez prendre la parole vite sur ce point. J'ai encore une petite chose à dire. Mon mentor dans la vie, Gil Loving, qui est mort il y a 2 semaines, était directeur de la recherche au SCFP, avait une affiche sur sa porte qui disait « l'effet seulement ». Et il a toujours cru que c'était la façon de gagner. C'est un bon point. 30 secondes. D'abord, merci pour les bonnes paroles, mais je dois vous dire qu'en France, une stratégie adoptée par les mouvements sociaux pour lutter ou pour récupérer le contrôle, c'est d'avoir recours à un cabinet d'avocats, obtenir un avis juridique et aller en cour pour contester la légalité de ces contrats, ce qui amène donc à d'autres négociations. Et le cabinet d'avocats donc fournit des avis juridiques à bon prix. Est-ce que cette stratégie serait réaliste dans votre pays ou est-ce quelque chose qui ne passerait pas? Steven Shriver, demain. Alors, on reviendra à cela demain. Ça va? Alors, Paul, à vous la parole. Je vais demander aux délégués, je suis désolée, mais il faut quitter la salle à 17 heures et on a une petite activité spéciale qu'on voulait faire. Alors, s'il vous plaît, joignez vraiment pour remercier Carlene, Al-Hassan, Anil, Shelley et Mona pour un très bon panel.
Cette balado-diffusion a été enregistrée à la conférence sur l'eau Sommet Bleu. Le Syndicat canadien de la fonction publique et le Conseil des Canadiens ont organisé le sommet pour souligner le 10e anniversaire de la coalition Aux Aguets. Il a eu lieu à Ottawa du 27 au 29 novembre 2009.